Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
L'actualité faite de jour J, on vous les raconte chaque soir sur RTL. Et ce soir, on se demande si ce n'était pas la belle vie quand même avant, dans les années Pompidou. Merci d'être fidèle à jour J que vous écoutez sur RTL ou en podcast. C'était le 2 avril 1974. Léon Zitrone gérait à l'antenne une situation inédite.
Nous allons, je vous l'ai dit, improviser parce que ce qui est survenu aujourd'hui, eh bien, je dois dire que nul ne s'y attendait. Nous allons maintenant, de plus en plus, pouvoir vous passer des images qui correspondront à diverses époques de la vie du président décédé il y a environ une heure et demie.
Georges Pompidou, qui avait été élu deuxième président de la 5e République en juin 1969, disparaissait de façon prématurée. À ce jour, il flotte dans l'air la nostalgie des années Pompidou, que de comètes des 30 glorieuses, ce temps où le chômage balbutiait, où il suffisait de traverser la rue pour trouver un emploi, ce temps où aller danser au bal le samedi soir n'était pas dangereux, et surtout ce temps de l'insouciance du lendemain. Alors était-ce vraiment mieux avant ? Voyage dans le temps ce soir avec nos invités. Patrice Duhamel, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste, éditorialiste politique. Vous avez réalisé un documentaire que l'on peut découvrir sur France.tv, Georges Pompidou, la cruauté du pouvoir. Et vous consacrez deux chapitres à Georges Pompidou, je le disais, dans votre dernier ouvrage aux éditions de l'Observatoire, Le chat et le renard, présidents et premiers ministres, deux ou trois choses que je sais deux. De toute façon, vous en savez des choses. Vous en avez tellement... emmagasiné dans cette longue carrière.
Notamment le soir de la disparition du président de la République, Georges Pompidou.
Mais c'était vraiment une surprise, la disparition de Georges Pompidou, parce qu'il n'était pas dans une santé flamboyante.
C'est la rapidité qui était une surprise. On savait qu'il était très malade. On ne savait pas exactement quelle était la nature de la maladie. En réalité, c'était une maladie qui s'appelle la maladie de Waddenström, qui est une forme de cancer du sang. Ça a été une surprise de ce point de vue-là, parce qu'il était extrêmement fatigué. Les images étaient très
bouffies, le visage bouffi
à partir de 72-73. Mais on ne pouvait pas imaginer que le 2 avril 1974, il disparaîtrait et que ça irait aussi vite.
Mais on ne préparait pas des nécrologies parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ceux qui nous écoutent le savent, le monde est un petit peu plus transparent.
Aujourd'hui, il suffit d'appuyer sur un bouton. Et
voilà,
puis,
les nécrologies, normalement, sont prêtes des personnalités dont on sait qu'elles sont amenées à s'éteindre dans les années qui viennent.
Notre ami Léon Zitrone, qui travaillait à la fois à l'ORTF et à RTL, était bien embarrassé ce soir-là. Moi, j'y étais, comme tous les journalistes de la rédaction. Et quand on a ouvert l'armoire où il y avait toutes les nécrologies des grands hommes et des grandes femmes par ordre alphabétique, on a vu qu'à Pompidou, il n'y avait rien. À ce moment-là, il y a un jeune chef d'édition qui est devenu ensuite un grand rédacteur en chef qui a dit « Mais il y a deux jours, j'ai vu une équipe de la télévision japonaise qui préparait la nécrologie de Georges Pompidou parce qu'ils avaient entendu les rumeurs sur sa santé. » Donc, on appelle en panique, c'était pas moi, j'étais un jeune journaliste à ce moment-là. Ils appellent la direction, appelle la NHK et on dit « L'équipe est avec la rétro et dans l'avion de Paris-Tokyo. » Et à ce moment-là, temps de l'ORTF, sous la présidence de Georges Pompidou, le pays, comme on dit, était tenu. Vous voyez que j'ai
du humour. Ouais, bien sûr.
Ils ont fait atterrir le Paris-Tokyo.
Arrête.
L'avion s'est arrêté quelque part à l'est de l'Union soviétique, j'imagine au Vladivostok ou quelque chose comme ça, je ne sais plus sur quel aéroport. Les gens de la télévision japonaise sont descendus de l'avion, ils ont envoyé à Paris la nécrologie par satellite, et la première nécrologie diffusée le soir de la mort du président de la République, à l'ORTF, était une nécrologie faite par la télévision japonaise.
Incroyable.
Bien entendu, ils ont enlevé le son, parce que le commentaire était en japonais, et donc c'était des images muettes. Alors après, ça s'est un peu amélioré dans
évidemment
les jours qui ont suivi. Mais j'ai vécu ça, donc...
De l'intérieur.
Ah bah j'y étais, c'était assez saisissant.
Ah bah ça j'imagine. Merci d'être avec nous, en tout cas, et de vous rappeler, Patrice Duhamel, parce que vous n'en prendrez pas ombrage, mais vous les avez connues, ces années dont on va parler ce soir, les années Pompidou.
C'est assez bien, Georges Pompidou.
Alors justement, vous allez nous en parler. À nos côtés ce soir, Martial You. Martial You, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, Martial. On vous écoute régulièrement sur RTL, on vous voit sur M6, puisque vous êtes éditorialiste pour cette radio et cette chaîne, et vous êtes auteur d'un livre « Les années 70 sont de retour aux éditions Fayard ». Les années Pompidou, l'ère pompidolienne, comment est-ce que vous pourriez la résumer, d'un point de vue économique, d'un point de vue sociétal.
C'est-à-dire que c'est une période faite de paradoxes, en réalité, puisque vous avez à la fois la fin d'une époque, quand même, c'est la fin des 30 Glorieuses, et puis c'est le début d'une forme de mondialisation qui ne va pas faire que des heureux, évidemment. Et puis c'est une époque où à la fois on a des préoccupations écologique très forte, puisque ça monte énormément à cette époque-là. Vous avez le premier candidat écolo aux élections de 1974, René Dumont. Vous avez une vraie préoccupation écologique chez Georges Pompidou aussi, puisqu'il va mettre en place le premier ministère de l'écologie. Et puis à côté, en parallèle, la France des autoroutes, la France du Concorde, la France de la voiture. Voilà, les Français aiment la bagnole, c'est bien sûr une phrase célèbre de Pompidou. Donc voilà, vous avez cette espèce de monde qui se transforme, c'est un peu comme une mutation en fait génétique. Vous avez un monde qui grandit, qui grossit, qui devient autre chose, avec une classe moyenne. Il ne faut pas oublier qu'avant 1970, on a encore un monde très rural en France, avec des habitations qui sont encore assez sommaires. Vous n'avez pas forcément les toilettes et la salle de bain dans les maisons en 1970. Et ça va se transformer très vite avec l'invasion, si j'ose dire, des maisons phénix, qui vont devenir évidemment la résidence des classes moyennes qui explosent dans les années 70 précisément.
Bon, vous restez avec nous messieurs, on l'aura bien compris, ceux qui nous écoutent vont se rappeler, ceux qui n'ont pas connu cette période, eh bien vont la découvrir, et on a toujours quand même le sentiment que la société est dans un éternel recommencement, parce que on va faire finalement souffler un vent des 70s ce soir sur l'antenne d'RTL, mais les 70s, on les retrouve aussi dans la mode et dans tant d'autres choses. Messieurs, vous êtes nos invités, on se retrouve tout de suite sur RTL.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Ce soir, Patrice Duhamel et Martial You sont les invités de Jour J pour revenir sur les années Pompidou. On se plonge dans les années 70, le début des années 70. D'ailleurs, à l'époque, on écoutait ça.
Laisse-moi t'aimer toute une nuit.
Mike Brandt, vous avez emballé Patrice Duhamel sur du Mike Brandt dans les années 70.
C'était pas trop mon truc, Mike Brandt, mais non.
Mais votre truc, vous emballiez quand même, j'espère.
Oui, absolument.
D'accord.
Le soir des matchs de tennis.
Pourquoi le soir des matchs de tennis ?
Parce que j'allais dans des tournois de tennis où il y avait souvent les boîtes de nuit à côté du club de tennis.
Ah, d'accord.
Notamment en Bretagne, en Normandie, sur les côtes.
Et vous n'écoutiez pas du Mike Brandt ? C'était le grand succès de 71, ça.
Mais je vais vous dire, je préférais Jacques Brel, Barbara.
C'est pas fun non plus hein, pour le jeune que vous étiez, Barbara.
Non.
Mais c'est magnifique.
Voilà, c'est sublime.
Ok. Martial You, vous aviez quel âge
Moi, je suis né en 73. Donc là, je ne pouvais pas encore emballer.
Ah, c'est vous qu'on emballait, justement. 73, voilà. Moi non plus, je n'ai pas connu. Mais en revanche, on se souvient qu'à cette période-là, on pouvait rouler sans ceinture de sécurité. Quand on téléphonait, on faisait le 22 à Nières.
Oui, absolument.
Ouais, non, mais
et ça prenait du temps après.
Non, mais alors attends. Non, mais pour ceux qui nous écoutent, quand même, Patrice Duhamel, il y a plein de jeunes qui nous écoutent, qui ont leur smartphone, qui nous écoutent peut-être même.
On ne savait même pas ce que c'était qu'un portable à ce moment-là.
Mais racontez, en fait, on appelait un opérateur.
Oui, alors faut pas remonter aussi loin.
Bah,
enfin, en tout cas, il y a des gros téléphones avec un cadran et on tourne le cadran pour faire un numéro.
Et on n'avait pas intérêt à se planter.
Il arrivait de temps en temps, ou pour les télégrammes, c'était pareil, qu'il faille téléphoner et dicter un télégramme. Voilà.
On envoyait des télégrammes.
Il n'y a même pas le Minitel encore à ce moment-là.
Ah bah non.
L'ordinateur, mais
c'est arrivé quand, Martial You, le Minitel?
En fait, c'est les suites du plan calcul qui est lancé par le général de Gaulle avec Pompidou, où là, on va donner une chance à l'informatique, en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que les années 70, c'est les années de la naissance d'Apple et de Microsoft aux États-Unis. Donc, c'est balbutiant. Les années 70, c'est aussi là où on va inventer la carte à puce, et ça, c'est un Français qui le fait. Et donc, on est vraiment au tout début de la recherche et développement de ce génie industriel, on va dire, à la française, notamment sur ce calcul. Au début des années 70, il y a un homme qui s'appelle Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui sera un ministre furtif de Valéry Giscard d'Estaing par la suite, mais qui a écrit un livre qui s'appelle « Le défi américain ». Et en fait, vous avez, à cette époque-là, un duel entre ceux qui défendent une industrie à l'ancienne, une France rurale, celle de la sidérurgie. Vous avez Mesmer qui dit « Lip, c'est fini » parce que vous avez des gros conflits sociaux à l'époque sur toute une industrie qui est en train de mourir. Et puis vous avez ceux comme Servan-Schreiber qui défendent l'informatique, les mathématiques, le spatial, les nouvelles technologies à l'époque. Et c'est ça, c'est ce qui va donner donc le téléphone, le Minitel qui sera, on va être objectif avec le recul, un plantage français parce qu'on aurait mieux fait de se mettre sur Internet que sur le Minitel qui est devenu une exception française, mais c'est ce plan-là, cette vision-là qui naît dans les années 70, effectivement.
Alors, on le disait aussi, Georges Pompidou, que vous avez bien connu, Patrice Duhamel. Georges Pompidou, pour ceux qui nous écoutent, parce qu'on en parle depuis le début de l'émission, voilà, là, on a célébré il y a peu de temps les 50 ans de la mort de Georges Pompidou, mais pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'est Georges Pompidou, c'est même un centre d'art à Paris, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est qui Georges Pompidou pour les plus jeunes?
D'ailleurs, si sur Internet, sur Google, si vous tapez Pompidou, je pense qu'on retrouve le centre Pompidou avant de retrouver Georges Pompidou.
Voilà, qui est le centre de Beaubourg. Voilà. Hein, voilà. Mais alors, expliquez aux plus jeunes qui nous écoutent qui était Pompidou.
C'est un homme de lettres qui était d'un milieu modeste, oui. Père instituteur, oui. Qui est devenu normalien, qui était d'une intelligence absolument fulgurante, exceptionnelle, un physique très impressionnant, qui est prof juste avant la guerre. Il sera prof pendant la guerre. Il fera quasiment pas de résistance, en expliquant d'ailleurs pourquoi, qu'il n'avait pas l'esprit d'aventure, et qui rejoindra le général de Gaulle grâce à un ami normalien à la fin de 1944 et va se créer un lien de confiance et voire d'amitié entre De Gaulle et Georges Pompidou. Pompidou va accompagner De Gaulle, pas pendant toute la traversée du désert et pas jusqu'en 1958, mais très longtemps. Mmh. Après, il devient banquier, patron de la banque Rothschild. Et d'ailleurs, une autre époque, parce que imaginez aujourd'hui un patron de la banque Rothschild qui deviendrait président de la République.
Évidemment.
Voilà. Non, mais Macron n'était pas le patron de la banque Rothschild.
Non, mais il n'était pas le patron. Je suis entièrement d'accord.
Et c'était très symbolique. Et puis, il devient le second Premier ministre du général de Gaulle en 62. Ce sera à ce jour le recordman de la longévité de Premier ministre. Il le sera de 62 jusqu'à l'été 68. Et un an plus tard, quand de Gaulle perdra le référendum et quittera le pouvoir, il deviendra président de la République.
Alors justement, je voudrais qu'on écoute Georges Pompidou se souvenir du conseil de son prédécesseur, le général de Gaulle.
Je me rappelle un conseil que le général de Gaulle m'a donné au moins 10 fois. Il me disait « Soyez dur, Pompidou. J'essaie, j'ai du mal. »
C'est un aveu d'humanité
C'était un homme de dialogue. De Gaulle était un militaire.
Exactement.
Pompidou était un enseignant. Mmh. Et il y a eu une divergence énorme avec eux en 68, où c'est d'ailleurs Pompidou qui a pris le dessus. Mmh. C'est vraiment lui qui a géré les choses. Parce que le général de Gaulle avait du mal à comprendre ce qui se passait.
La jeunesse et ce qui animait les rues, oui.
Et Pompidou a tendu la main aux étudiants. Il a rouvert la Sorbonne quand elle était fermée, etc. Et le général de Gaulle n'était pas tout à fait d'accord là-dessus. Donc, il y a effectivement cette souplesse, cette adaptation aux circonstances qui était très différente de ce qu'était le général de Gaulle. Mais c'est parce qu'ils étaient complémentaires et différents qu'ils se sont si bien entendus pendant un moment, parce que la fin, je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui d'en parler, mais la fin de leur relation a été cataclysmique. Et c'était presque devenu l'amitié, la complicité, l'affection même entre les deux.
S'est transformé
à la fin en une forme de détestation, voire de haine personnelle.
On va se retrouver dans un instant, on aura l'occasion de revenir sur tout ça. On vous écoute et l'un et l'autre pour nous plonger justement dans ces années 70. On se retrouve tout de suite sur RTL.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Et toujours en compagnie de nos invités, Patrice Duhamel qui nous raconte le Pompidou qu'il a connu et que vous avez suivi en tant que journaliste. Vous êtes éditorialiste politique et je conseille votre doc Georges Pompidou, La cruauté du pouvoir, que l'on retrouve sur France.tv. Et puis votre livre, Le chat et le renard, présidents et premiers ministres, deux ou trois choses que je sais d'eux, aux éditions de l'Observatoire. Patrice Duhamel, justement, Pompidou, vous venez de nous le dire, a été ministre, puis a tenu la place de président de la République jusqu'à ce qu'il disparaisse de façon prématurée de maladie, donc en 1974. Martial Liu est également avec nous. Alors Martial, lui, il nous raconte les années 70 que l'on peut retrouver dans son ouvrage qui sont de retour aux éditions Fayard. Quand on regarde les chiffres, messieurs, on se rend compte que dans les années 70, l'un des problèmes majeurs des Français aujourd'hui, c'est-à-dire le chômage, n'en était qu'à ses balbutiements. Patrice Duhamel, à cette époque, c'était il y a 50 ans, hein, à cette époque, il y avait 175 000 chômeurs en France et ça inquiétait déjà Pompidou.
Je l'ai entendu dire, le jour où il y a 500 000 chômeurs en France, ça sera la révolution.
Oui. On en est à plus de 6 millions. Hein.
Et le oui, enfin au total,
oui.
Le taux de croissance était autour de 5%. Il y avait quand même beaucoup d'inflation à ce moment-là. Mais en gros, tout fonctionnait bien. Et si on prend tous les critères objectifs, la France était le pays européen. Alors à ce moment-là, c'est l'Europe des 6. Hein. On n'est pas à 27, on est à 6. Mmh. L'Europe des 6, la France est la mieux placée à peu près sur tous les éléments économiques. Et puis, il a eu une action sociale aussi sur la mensualisation des salaires, sur toute une série de choses, sur la formation professionnelle avec son premier ministre qui était Jacques Chaban-Delmas, avec lequel d'ailleurs il ne s'est pas très bien entendu parce qu'ils avaient des caractères très, non pas complémentaires comme De Gaulle et Pompidou, mais très antagonistes, ils ne se ressemblaient pas du tout. Et donc, ça a fait des étincelles très vite, ce que je raconte notamment dans mon livre. Mais juste, avant de terminer, ce qui était frappant quand on voit, non pas seulement les mandats de Macron, mais depuis en réalité la fin de Giscard, le début de Mitterrand, c'est que tout le monde parlait du bonheur. Il disait « je veux le bonheur des Français ». C'était pas « je veux tel chiffre, je veux tel objectif », etc. Tout le monde considérait que les Français étaient heureux, que la vie était plus agréable que pour leurs parents et qu'elle était sûrement moins agréable que pour leurs enfants. Donc tout allait bien dans le meilleur des mondes, entre guillemets. Et puis il y a, mais ça Marcel Liou, je vous en parlerai j'imagine, il y a un événement majeur en 73, un an avant sa mort, qui est le premier choc pétrolier.
Le premier choc pétrolier
qui aura
une incidence
considérable.
Évidemment. Marcel Liou, justement, l'ère pompidolienne, c'est comme le disait il y a un instant Patrice Duhamel, et ce que je répétais moi en début d'émission, c'était l'insouciance du lendemain. Voilà, c'est vrai qu'à cette époque-là, on osait, même les politiques osaient parler de bonheur. Aujourd'hui, on les prendrait pour des illuminés, quoi.
Ouais, et c'est vrai que ça a été un mot qui revenait souvent chez Pompidou, cette notion de bonheur. Lui, il avait coutume de penser, en tout cas, et de dire qu'on ne tombait pas amoureux d'un taux de croissance, quoi.
Ouais.
Il fallait effectivement quelque chose de supérieur qui apporte le bonheur, c'est-à-dire une croissance, une émulation collective, une croyance collective plus qu'une croissance en tant que telle. Et en même temps, il y avait effectivement les frimas de ce qui va apparaître en 73 avec le premier choc pétrolier qu'il va gérer. Mais c'est vrai que Pompidou sent arriver le retournement en fait économique qui se profile, parce qu'il voit qu'il y a une forme d'industrie qui change, qui se transforme. Moi, je me souviens, je l'ai mis en exergue de mon bouquin parce que je trouvais cette phrase incroyable. En 1970, vous avez Georges Pompidou qui dit « Je suis de ceux qui pensent », et c'est dans le documentaire d'ailleurs de Patrice, « Je suis de ceux qui pensent que dans 50 ans, donc aujourd'hui, la fortune consistera à pouvoir s'offrir la vie d'un paysan aisé du début du XXe siècle. » C'est-à-dire de l'air pur, des œufs frais, des poules élevées avec du grain. C'est en gros exactement ce que demandent aujourd'hui, à la sortie du Covid, la plupart des urbains qui ont souffert du confinement et qui veulent un retour à la nature, un retour à une nourriture saine. Et au moment où on vit une crise agricole à nouveau, on s'aperçoit que tout ça était déjà là et analysé par Pompidou dans les années 70.
Et d'ailleurs, il avait un côté visionnaire, parce que c'est le premier président qui a créé un ministère de l'Environnement. C'était plus la défense de la nature que l'écologie des années 2020.
Mais sur quoi reposait justement cette acuité-là de visionnaire, selon vous
Une intelligence conceptuelle et une proximité personnelle avec les gens. Les gens l'adoraient. Moi, je l'ai suivi dans des déplacements. À ce moment-là, on ne disait pas les territoires, on ne disait même pas les régions, on disait la province. Donc, je l'ai suivi dans des déplacements en province. Il y avait des bains de foule, tout le monde était heureux, personne... Il n'y avait pas un syndicaliste qui était avec une banderole. Alors, bien entendu, il y a eu des manifestations, il y a eu des désaccords, etc. Et il y avait, bien entendu, des gens modestes, malheureux. Il ne faut pas dire que tout allait mieux pour 100% des Français. Mais quand même, c'était extraordinairement impressionnant. Impressionnant.
Il faut peut-être préciser aussi qu'il y avait un outil économique à l'époque qui était la possibilité de jouer sur la valeur de la monnaie. C'est-à-dire, évidemment, aujourd'hui, avec l'euro, c'est parfaitement impossible. Mais Georges Pompidou, évidemment, en étant maître de sa monnaie, Georges Pompidou fait le pari de jouer l'inflation contre le chômage.
Alors,
on parlait tout à l'heure du chômage. Lui, il se dit, il faut que, en gros, l'inflation donne plus de pouvoir d'achat aux gens et permettre de lutter quelque part en créant de la croissance, de créer du chômage.
Ouais,
c'est ça sa philosophie.
Il faut se souvenir que la fameuse négociation de Grenelle, quelques jours avant la fin de mai 68, donc un an avant l'élection de Georges Pompidou, dans les négociations, le SMIC, le salaire minimum, a augmenté de 35%.
Ouais, c'est clair.
D'un seul coup.
D'un seul coup.
Le grain à moudre. Les syndicats parlent du grain à moudre à ce moment-là. C'est-à-dire qu'effectivement, en gros, ceux qui ont vécu ces années 70 se souviennent que comme on indexait les salaires sur l'inflation et qu'on avait une inflation à l'époque pendant toutes les années 70, ça a duré, hein, et ça a créé d'ailleurs l'endettement de la France, mais en tout cas pendant toutes les années 70 vous aviez entre 5 et 10% d'inflation et les salaires suivaient le rythme, donc vous aviez emprunté 330 francs par mois pour rembourser votre maison alors que vous gagniez 1000 francs de salaire, bah, 10 ans plus tard vous continuiez à rembourser 330 francs par mois pour votre maison mais vous gagniez 2000 francs. En gros, vous avez une classe moyenne dont je parlais tout à l'heure qui s'est affirmée pendant cette décennie-là, tout simplement parce qu'elle s'est enrichie et a pu devenir propriétaire, ce qui n'était pas forcément le cas avant.
Voilà, parce que l'accès à la propriété effectivement était l'une des grandes avancées sous l'ère Pompidou. On va se retrouver, messieurs, dans un instant. On va parler, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, Martial Youx, de cette ère technologique, de cette ère moderne, de ces constructions d'autoroutes où tout à coup, effectivement, le territoire, la France, était à portée de main pour tous. À tout de suite.
Chère vieille France, la bonne cuisine, les folies bergères, le guépard, la haute couture, et de bonnes exportations, du cognac, du champagne, et même du Bordeaux ou du Bourgogne. C'est terminé. La France a commencé et largement entamé une révolution industrielle.
Voilà un extrait de votre documentaire, un discours de Georges Pompidou, du documentaire de Patrice Duhamel que vous pouvez retrouver. Georges Pompidou, la cruauté du pouvoir, en replay sur France.tv. Qu'est-ce qu'il disait là, Georges Pompidou, avec sa voix truculente qui nous ramène, Martial Youx s'en souvient, qui nous ramène dans les années...
Fumeur, il fumait deux paquets de cigarettes.
Il fumait deux paquets de clopes.
Et il avait la cigarette aux lèvres.
Un produit des années 70.
Mais exactement. Qu'on n'a plus le droit de montrer.
Est-ce
aujourd'hui,
qu'on imaginerait
normalement
aujourd'hui un président clope au bec et, hein.
Alors, et ce que ça veut dire, c'est que en gros, son nom est attaché à ce qu'on appelle une stratégie industrielle qu'il a engagée avec l'accord, pas trop avec l'initiative du général de Gaulle, avec l'accord du général de Gaulle, mais qui est attaché à la personne de Georges Pompidou, qu'il a engagé quand il était à Matignon, 62-63, et donc qui a duré une dizaine d'années jusqu'à sa disparition, 74, et qui l'a conduite avec Giscard, son successeur,
exactement,
qui était ministre de l'économie et des finances. Et
c'était quoi sa vision,
en tout cas.
C'était quoi sa vision?
Sa vision, c'est qu'il fallait que l'État accompagne la création et le développement de grandes filières industrielles. Alors l'aéronautique, le train, la voiture, le nucléaire, etc., etc. Marcel Youx parlait tout à l'heure de l'informatique. Voilà, des grandes filières industrielles. Il avait des liens comme ancien banquier avec énormément de chefs d'entreprise. Il recevait à l'Élysée plus de grands chefs d'entreprise que de grands responsables politiques. Ça le passionnait littéralement. Et c'est vrai que il est légitime que son nom soit attaché à cette idée-là et à tous ces grands chantiers industriels. Juste un mot, parce que je ne sais pas si on aura le temps d'en parler avec la fin de l'émission. Il était très moderne de ce point de vue-là, très moderne sur la culture. Et ça, c'est la complexité de cet homme, très attachant, c'est qu'en même temps sur les mœurs, alors qu'il a été élu un an après 68, la liberté, etc., il était assez prudent.
Ça coincait un petit peu plus.
Oui, il n'a pas fait l'IVG, il aurait pu faire l'IVG. Il a fallu attendre Giscard et Simone Veil en 74 pour qu'il y ait l'IVG. Mais il y avait la statue du commandeur du général de Gaulle à Colombey, jusqu'à sa disparition en 70, qui le freinait un petit peu sur un certain nombre de choses aussi. Il était, d'une certaine manière, au début de son mandat, ses 100 premiers jours, etc., il était, d'une certaine manière, sous contrôle.
On parlera de la société, justement, et de l'évolution de la société sous Pompidou, ou les lenteurs aussi sous Pompidou, et notamment de l'affaire Russier, voilà, cette professeure amoureuse d'un de ses élèves. Bon, je voudrais qu'on vienne, moi, au développement moderne des technologies. Il y a eu ça, évidemment.
TGV, très grande vitesse, 0, Véro 1.
Alors, faut dire aussi que pour faire les pubs à l'époque, il y avait quand même des voix qui étaient super chaleureuses. Ça fait un peu Minitel Rose, hein, mais c'est comme ça qu'on nous vendait le TGV. Et le TGV, en fait, alors, il a été initié sous Pompidou et il a été inauguré sous François Mitterrand parce qu'il a fallu du temps, évidemment. Mais le TGV, c'était la révolution parce que ça a considérablement changé aussi, Martial You, la mobilité finalement des Français.
Oui, c'est l'État stratège, tel qu'on peut le regretter d'ailleurs un peu depuis, mais qui est vraiment la marque de fabrique de la fin du gaullisme et de Georges Pompidou, c'est-à-dire la capacité de réaménager le territoire, parce que vous avez effectivement le TGV, mais vous avez aussi sous Pompidou des centaines de kilomètres d'autoroutes qui sont créées pour là aussi diffuser depuis Paris jusque dans la province. Vous avez en fait une vision qui vend la vitesse. En réalité, vous avez la vision qui vend la vitesse sur le TGV, vous avez la vision qui vend la vitesse aussi pour le périphérique et la traversée de Paris, puisque Pompidou dit on peut traverser Paris en 15 minutes à l'époque.
Il avait le projet des voies sur berge aussi. Hein,
exactement.
Il
les a lancés. Vous avez Ariane, c'est-à-dire le programme Ariane se lance dans les années 70, en même temps que Airbus aussi, et que le programme Concorde. Vous voyez, donc à chaque fois, c'est cette idée que l'on va aller plus vite d'un point A à un point B et donc rapprocher en fait la province de Paris et des lieux de décision. C'est véritablement une vision qui associe à la fois la possibilité de créer de l'emploi haut de gamme, parce que c'est quand même encore ce discours-là qu'on entend aujourd'hui d'un pays, la France, qui est capable d'avoir de très grands ingénieurs et de créer des révolutions industrielles. On a encore cette vision-là, y compris chez Emmanuel Macron, et je pense qu'elle est juste. Même si on a beaucoup décrié le nucléaire, c'est quand même aussi une vision très française, le nucléaire, qui naît sous Pompidou. Et donc, vous avez cet élitisme industriel qui est vendu par Pompidou, qui est encore aujourd'hui d'actualité, et qui va essaimer sur... Allez, les 50 années qui viennent de s'écouler, parfois avec des trous d'air, je parlais du nucléaire, mais globalement, cette capacité, moi je me souviens il y a quelques années avoir discuté avec le patron de Spotify qui m'avait dit, mais continuez en France à créer les meilleurs ingénieurs du monde, moi j'ai du boulot pour eux. Et on voit aujourd'hui ces grands ingénieurs qui sont parfois partis dans la Silicon Valley avec l'ère d'Internet revenir en France aujourd'hui pour l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, on a effectivement, sous Pompidou, cette foi dans l'intelligence mathématiques et dans la recherche et développement des ingénieurs français. Et ça va durer encore aujourd'hui.
Alors que c'était plus un littéraire qu'un scientifique.
Absolument, bien sûr.
C'était un normal.
Oui, bien sûr. Messieurs, vous restez avec moi. Martial You, vous ne bougez pas.
Non.
vous non plus, Patrice Duhamel. Vous restez avec moi dans ce studio. On va se retrouver dans un instant. On va parler de la société. Vous le disiez en fait, Patrice Duhamel, il est des chantiers auxquels Pompidou ne s'est pas attaqué. Il ne s'est pas emparé de certaines questions de société. Mais parfois, des drames de la société sont venus à lui et l'ont obligé à prendre la parole et même à se positionner, à l'instar de l'affaire Russie. À tout de suite sur RTL.
Jour J, avec Flavie Flamand. Sur RTL.
On est au début des années 70 sous Georges Pompidou et on va parler maintenant de la société de cette époque. Cette société qui a été en évolution, même si effectivement les grandes décisions, les grandes avancées, je dirais, politiques et législatives, Patrice Duhamel, se feront plutôt sous Giscard, le successeur.
La libéralisation de la société, exactement. Ça sera les 100 premiers jours de Giscard, absolument.
Le cinéma, déjà, c'était le cinéma de sauter. Non mais c'est vrai. C'est...
César et Rosalie.
Vous étiez plutôt César ou plutôt Rosalie, vous?
Mais moi j'ai toujours dit que Rosalie est la première grande féministe du cinéma français. C'est une femme qui choisit sa vie.
Exactement.
Totalement. En toute liberté.
Voilà, et qui est amoureuse de deux hommes.
Absolument.
Voilà, interprété par Sami Fay.
Très différent. Magnifique
et
film.
Et par Montand. Film magnifique. César sera toujours César. Enfin bon bref. Ça y est, on est parti. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Martial You?
Non, je valide, je valide.
Vous étiez César ou Rosalie? Vous étiez César ou...
Ah oui, Rosalie, mais parce
non,
que...
Non, mais attends, c'était que... César ou David?
David.
Voilà, David sera toujours David, César sera toujours César. Vous étiez César ou David?
Ouais, Sami Fay. Sami Fay,
d'accord. Donc
je me reconnaissais plus sur lui.
Ok. C'était les choses de la vie, c'était les films d'Yves Boisset aussi, Vincent, François, Paul et les autres. C'était les films chorales, les bandes, les familles, oui.
C'est aussi les valseuses.
Ouais, ah bah tiens,
c'est
exactement.
C'est aussi les valseuses, et Depardieu et Patrick Devers.
Exactement.
Qui a choqué beaucoup de gens à l'époque.
Qui a froissé la société.
Qui a froissé la société, absolument, avec Miu Miu, qui était un film qui a été jugé comme très dérangeant.
Ouais.
Mais c'est cette période-là aussi. Puis c'est les premiers films de Godard, La Chinoise, qui était un film difficile à comprendre, mais que Pompidou avait beaucoup aimé. Il avait fait une projection spéciale de La Chinoise et les amis qu'il avait reçus lui avaient dit « on n'a pas compris grand-chose ». Et lui a dit « moi, je suis pas sûr d'avoir compris, mais en tout cas,
il faut
regarder, c'est vraiment un film qui apporte quelque chose de nouveau
». Donc il était vraiment dans son temps.
C'était pas le film le plus facile de Godard.
Mais il était dans son temps.
De ce point de vue-là, il était Beaubourg, c'est le Centre Pompidou, il est en avance sur son temps.
Voilà, le Centre Pompidou, musée, centre d'art contemporain, dès décembre 1969, ça a été le grand projet de Georges Pompidou. Vous vouliez rajouter quelque chose sur le cinéma, Martial Huot, avant qu'on passe à la société, à l'affaire Russier, qui s'est retrouvé d'ailleurs au cinéma.
Qui s'est retrouvé au cinéma après, effectivement, mais ce qui est fascinant dans ce que décrit le cinéma des années 70, et ça va jusqu'à la fin des années 70, et Un éléphant ça trompe énormément, et Nous irons tous au paradis, c'est-à-dire c'est cette espèce de prise en main du combat féministe. On a aujourd'hui évidemment une vision très nouvelle du féminisme, mais qui rappelle ces années 70 où le MLF se crée. Et lorsque vous vous souvenez de On ira tous au paradis, vous avez un Victor Lanoux qui se retrouve à vivre avec une femme qui porte pas de soutien-gorge, qui peut avoir plusieurs amants, qui lui impose ses dits, alors que lui est censé être le macho dans l'histoire de ce film. C'est-à-dire que vous avez des valeurs qui s'inversent, qui sont nées de 68 évidemment, mais qui sont en train de s'imposer et qui percolent en fait au travers de toutes ces années 70, à travers le cinéma évidemment, oui.
Alors, j'aimerais, Patrice Duhamel, pour les plus jeunes qui nous écoutent, que vous nous plantiez le décor de ce que l'on a appelé l'affaire Russier, qui est une histoire d'amour interdite.
C'est en 69.
Ouais.
Gabriel Russier est une enseignante qui tombe amoureux d'un de ses élèves qui a, à cette époque-là, 17 ans, qui est donc encore plus mineur, j'allais dire, qu'aujourd'hui, puisque à ce moment-là, la majorité était de 21 ans, c'est Giscard qui va la baisser à 18 ans, et ils ont une liaison qui dure. Les parents de garçon en question portent plainte, elle est condamnée, elle fait même un peu de prison.
Elle est condamnée à un an de prison, voilà. Et à 500 francs d'amende.
Et elle va se suicider. C'est une affaire qui bouleverse la France entière, qui donnera lieu à un film magnifique de André Cayatte qui s'appelle Mourir d'aimer, avec la fameuse chanson de Charles Aznavour qui accompagne le film. Et c'est une affaire tellement forte qu'elle fera l'objet de la dernière question posé dans une grande conférence de presse à Georges Pompidou, qui fera une réponse d'anthologie.
On écoute Georges Pompidou au sujet de cette affaire.
Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai pensé d'ailleurs sur cette affaire, ni même ce que j'ai fait. Quant à ce que j'ai ressenti, comme beaucoup, eh bien, qu'en prenne qui voudra, moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus, celles qui ressemblent aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'éluard.
Voilà, Georges Pompidou qui cite donc Paul Éluard à l'occasion de ce drame.
C'est un poème écrit par Paul Éluard en hommage aux femmes tondues à la Libération. Quand Georges Pompidou dit « je ne vous dirai pas ce que j'ai fait », moi je peux vous le dire, c'est qu'il a demandé, en exigeant que ça ne se sache pas, à l'Éducation nationale qui avait prévu de sanctionner Gabriel Russier, de l'exclure de l'Éducation nationale à cause de cette liaison avec un de ses élèves, de ne pas le faire. Mais il a dit « j'interdis à l'administration de l'Éducation nationale de la sanctionner, mais je ne veux pas qu'on sache que cet ordre vient de moi ». Par ailleurs, beaucoup de ses amis ont dit que la référence du poème d'Éluard, c'est aussi la douleur, le drame qu'a vécu sa femme avec une affaire épouvantable qui s'appelait l'affaire Markovitch.
Terrible.
À la fin des années...
Cette rumeur
à la fin des années 68, la rumeur monstrueuse avec des photos truquées.
De l'épouse de Pompidou dans des parties fines.
Qui était faite pour tuer politiquement Georges Pompidou en attaquant de manière épouvantable sa femme avec des rumeurs invraisemblables quand on l'a connue sur le fait qu'elle participait effectivement à des soirées particulière avec des soi-disant des photos, du chantage, etc.
Ça, déjà, à l'époque, ça existait, hein.
Oui, absolument. Mais aujourd'hui, vous imaginez l'affaire Markovitch. Je ne sais pas si Georges Pompidou serait devenu président de la République avec l'affaire Markovitch et les réseaux sociaux.
On se retrouve dans un instant, si vous le voulez bien. À tout de suite sur RTL.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Eh bien, Patrice Duhamel, Martial You, je dois confesser que je reviendrai bien dans les années 70, même si je n'en ai connu que la fin. Parce que cette société que vous nous racontez en pleine mutation, c'est la société d'hier, mais dont la résonance avec aujourd'hui est quand même assez incroyable. Alors, je ne peux que vous demander, Patrice Duhamel, comment vous pourriez nous raconter l'héritage, Pompidou, ce qu'on s'est raconté ce soir, si on devait le résumer. Qu'est-ce qu'on tire des années pompidoliennes? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui?
Il en reste le bonheur des Français. Il en reste cette phrase extraordinaire de Georges Pompidou qui est maintenant reprise quasiment 10 fois par jour par les responsables politiques qu'il a prononcée devant Chirac, un soir où Chirac est venu boire un whisky avec lui, il le faisait souvent en fin d'après-midi, et De Gaulle était en train de signer des parapheurs, et Pompidou a dit à Chirac, vous vous rendez compte, cette tonne de parapheurs, il faudrait peut-être qu'on arrête d'emmerder les Français, ouais. Parce qu'il signait des papiers qu'il jugeait inutiles. C'est ça. C'est la charnière entre la grande période gaulliste et la période qui va suivre, avec une libéralisation de la société quelques années après 68. Et c'est aussi l'homme qui a consolidé la constitution de la Ve République. De Gaulle avait démissionné, il va disparaître un an et demi après l'élection de Pompidou, et il va garder, il va renforcer les institutions de la Ve République, dont certains disent « ces institutions sans De Gaulle ne peuvent pas exister ». Donc il a tenu à les renforcer et à les consolider.
C'est-à-dire que si on n'avait pas eu Pompidou, la Ve République n'aurait pas été aussi forte
et ne bénéficierait pas de cette longévité. Peut-être se serait-elle davantage affaiblie. Et c'était très important que dans la foulée du départ de Georges Pompidou, la Constitution soit consolidée.
Martial You, on est les héritiers de l'ère Pompidou aujourd'hui.
Oui, et je pense que un des phénomènes les plus marquants initiés sous Georges Pompidou et bien sûr après avec Valéry Giscard d'Estaing, c'est l'émergence de cette classe moyenne française qui explique aussi peut-être aujourd'hui certains ressentiments que peuvent avoir certains par rapport au pouvoir en place, certaines tensions dans la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce sentiment que à l'époque de Georges Pompidou, vous aviez la possibilité d'améliorer votre train de vie, votre situation sociale, que vos enfants auraient une vie meilleure que la vôtre, et qui est une crainte aujourd'hui de déclassement à l'inverse, voyez. Ouais. Et c'est vrai que dans les années 70, vous avez cette émergence de la classe moyenne, mais vous avez donc, on en a parlé, les maisons Phoenix, on devient propriétaire, vous avez l'acquisition de la voiture, parce que la maison Phoenix, ce qu'elle a de révolutionnaire, c'est qu'elle a un garage, ce que n'ont pas les autres maisons avant. Elle a le garage pour garer la Dauphine. Et puis vous avez le tourisme de masse, la possibilité de partir en vacances. Souvenez-vous de ces pubs qu'on a entendues.
L'expansion du Club Med.
Et Ferinel, le début de la carrière de Bernard Arnault.
On dirait que les Jekyll, les deux qui se souviennent. Ferinel, oui.
Mais Ferinel, c'est les vacances à la mer, c'est les vacances à la montagne. On peut même devenir propriétaire du petit appartement à la montagne.
Qui aujourd'hui, et ça, en plus, vaut vraiment quelque chose, quoi.
Mais bien sûr. Donc, voyez, vous avez Roissy-Charles de Gaulle qui est inauguré dans les années 70 aussi, bien sûr, ouais. Et qui est l'émergence du low cost, de l'avion charter qui permet d'aller au Club Med, d'aller un peu plus loin. Ouais. Donc vous voyez, tout ça, ce sont les ferments d'une société qui n'a fait qu'évoluer, qu'on a beaucoup critiqué après, mais qui donne ce sentiment, ce goût de c'était mieux avant. Parce que finalement, c'était le début de toutes ces aventures dont aujourd'hui on mesure peut-être aussi les impacts négatifs.
Et évidemment. Pompidou, c'était le avant de c'était mieux avant.
Exactement, le avant du c'était mieux avant. Est-ce qu'il y a des politiques aujourd'hui, Patrice Duhamel, qui se réclament de Pompidou? Lesquels?
La plupart, à l'exception de l'extrême droite et de la gauche radicale.
Tous se réclament de Pompidou.
Oh bah vous en avez énormément, ALR, Emmanuel Macron a beaucoup rendu hommage à Georges Pompidou. Non, ils sont extrêmement, extrêmement nombreux. Parce qu'il avait réussi cette synthèse, c'est aussi une des explications de ce qui reste de son héritage, entre la tradition et la modernité. Et c'est le passage, d'une certaine manière, de la tradition à la modernité.
dont il faut donc s'inspirer. Merci beaucoup Patrice Duhamel d'avoir accepté notre invitation. Je conseille donc Le chat et le renard. Ça, c'est votre dernier ouvrage aux éditions de l'Observatoire. Le documentaire Georges Pompidou, La cruauté du pouvoir.
Je suis un des co-auteurs, pas le seul auteur.
Mais voilà. Absolument très cher. En replay, donc sur France.tv. Merci Patrice,
merci
à la prochaine.
À
merci Martial You, c'était super.
Merci.
Les années 70 sont de retour, c'est aux éditions Fayard. Et puis ça fait une semaine qu'on peut retrouver également votre podcast disponible sur l'application RTL. Tout savoir sur l'héritage Pompidou. Voilà,
absolument.
Ça c'est complémentaire à l'émission de ce soir. C'est pas génial?
Formidable.
Merci à vous, mon cher Martial. À très bientôt.
Merci.
Sur RTL et sur M6. Merci à toute l'équipe de Jour J. Alors, lesquels ont connu les années Pompidou? Eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Eh bien, il y en a qu'un, c'est Marc Bisset. Et voilà. Merci à Marc Bisset aux manettes, Céline Bonnet, Quentin Azoula et Bastien Robin pour l'équipe de Jour J. Je vous souhaite une très bonne soirée sur RTL et je vous donne rendez-vous demain. Merci pour votre fidélité.